Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 29 juillet, si je ne m'abuse. Vous écoutez Radio Silence par Élise Mbok. Nous sommes cette fois-ci bien, bien, bien au Cameroun. Ça va être le sujet, le topic de cette émission, parce que les élections, c'est prévu en octobre, en principe, le 12, je ne sais plus, quelque chose comme ça, mais peu importe la date exacte. Et les choses s'accélèrent parce que il y a eu un délai de dépôt de candidature qui, forcément, devait se terminer de façon alambiquée, parce que déjà, il y avait 83 candidatures. Ce qui est énorme et ce qui traduit surtout le désarroi dans lequel se trouvent les Camerounais en ce moment. Et sur les 83, finalement, on se retrouve avec une sélection, je ne sais pas, de 13 ou 16. Mais ce qui est plus alarmant, c'est une sorte de disqualification du professeur Kamto, qui est le principal adversaire politique au régime en place. Et ça, c'est troublant, parce qu'il y a eu une manœuvre quasi mafieuse, mais en même temps, au Cameroun, tout ce qui, la mafia, le mot mafia n'a plus de sens parce que tout le monde est délinquant, potentiellement. Voilà. Tout le monde est devenu délinquant parce que le régime est un régime délinquant, fou. Et puisque les gens n'avaient aucun recours, parce que le régime est puissamment armé, donc on ne peut pas bouger et contrôler. C'est un secret de polichinelle pour personne. C'est le Mossad qui commande ici. Donc ça vous donne une indication du niveau de contrôle et de pression qu'il y a sur les habitants individuellement et sur bon, les communautés n'existent plus, hein, parce que le principe de la délinquance, c'est une sorte de, sauf qui peut, puisque c'est ce que, on dit que l'exemple vient d'en haut, c'est ce que les gouvernants, les pseudo-gouvernants, ou plutôt les gouvernants, comment on va dire ça, des épouvantails, ils sont là, c'est pas vraiment eux qui gouvernent, puisque quand on vous parle du Mossad, vous savez déjà qui gouverne. C'est les multinationales, c'est derrière la France, bien sûr, mais derrière l'Amérique, derrière tout l'Occident. C'est ça qui gouverne ici. Et parler même d'un gouvernement camerounais, c'est un peu rigolo. Donc, c'est un peu je sais plus comment on dit là quand il y a une mise. Des figurants, voilà. C'est des figurants, ils s'agitent, ils passent des ombres, des défilés. Mais au fond, il n'y a pas de gouvernement au Cameroun. Voilà, il n'y a pas de gouvernement. Le Cameroun est piloté depuis l'extérieur et il se dit, mais ça, je sais pas, je pense pas trop que l'épouse du président qui serait française, ou c'est elle qui serait la présidente en vrai, un peu comme vous voyez toutes ces facéties là avec le couple Macron, des rapports de genre inversés, où on ne sait plus qui est vraiment le président de la présidence, ce qu'on a eu aussi avec les Obama. Donc, retenons que c'est toujours cette forme de France-Afrique qui couvre le Cameroun, mais doublé, dédoublé par le Mossad. Parce qu'en fait, derrière la France-Afrique, c'était le Mossad. Hein. Le Mossad, ce sont ceux qui ont la puissance financière. Et quand vous avez la puissance financière, ben, vous commandez tout le reste, hein, même l'Amérique, même la France. Vous avez vu comment la France part en vrille. Donc, la disqualification de M. Maurice Kamto arrive de façon assez alambiquée. Vous voyez, un parti, M. Kamto était dans un parti politique, président et tout, du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'était la dernière fois en 2018. Il avait beaucoup de temps en avance. Il s'est même permis de boycotter les élections qui ont suivi législatives parce qu'elles ont été déplacées à dessein, comme on a fait en France, hein, vous voyez, pour conforter la majorité présidentielle. Et ça, c'était déjà une fraude. Lui, il a dit de ne pas faire ça. Moyennant quoi, le parti au pouvoir a dit, ah ben si c'est comme ça, ceux qui n'auront pas de représentation municipale, locale, en gros, municipale ou pas sénat, oui, ou législative, sénatoriale, législative, députée, tout ça, n'auront plus le droit de se présenter au présidentiel. Donc, ils ont préempté la chose et bloqué M. Camteau, qui a finalement bien manœuvré, parce que juste là, avant le dépôt des candidatures, il était en pourparlers avec un autre parti politique qui s'appelle le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Bon, un parti fondé dans les années 90, et donc c'était une très bonne chose, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Il a trouvé que dans ce parti, il y avait un problème de leadership. Comme toujours, hein, vous savez, quand on est dans des égoïsmes. Et le parti est scindé en deux. Et donc, chaque fraction a présenté un candidat. Et du coup, ça s'est déjà produit plusieurs fois ici. Quand le même parti présente deux candidats en même temps, parce que vous avez des oppositions là-bas, ça ne peut pas marcher. On disqualifie tous les deux candidats. Donc, les deux candidats ont déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel, mais ça va être compliqué. C'est compliqué. Ben, j'aime plutôt le mot compliqué, veut plus rien dire du tout. Ça va être assez difficile à démêler parce que chacun des candidats, enfin l'autre candidat opposé à M. Camteau, se dit aussi président du même parti, alors un parti avec deux présidents, deux staffs qui présentent deux candidats, ça peut pas marcher. Donc, c'est bizarre parce qu'on a eu déjà ça avec l'UPC, qui est le parti fondateur hein, du Cameroun, enfin de la première indépendance, qui a présenté aussi comme ça une fois deux candidats, a été éliminé. Donc, c'est quelque chose qui relève, on va dire, c'est une manœuvre politicienne. Il suffit de confier à quelqu'un au sein du parti la mission de déstabiliser tout le parti au profit, bien sûr, du régime en place. Et les dés sont jetés. Donc là, c'est vrai que sur le plan de la procédure, c'est peu lisible. On attend, on verra bien. Et c'est dommage parce que c'est le duel qu'on attend depuis. Pas le duel, c'est le changement que les gens ont prévu depuis. Monsieur Camteau, il a pris beaucoup d'avance dans l'opinion publique, dans ses déplacements, dans sa façon d'agir, de faire, et qui font que vraisemblablement, il devait gagner. Mais il y a un hic. Il y a un hic puisque Le Grand Nord, ça c'est la politique camerounaise que vous ne connaissez pas, mais je vous en parle quand même. Le Grand Nord, c'est le lieu où la natalité est la plus, comment on va dire, active. Ils accouchent beaucoup, ils ont beaucoup d'enfants, donc du coup ils ont beaucoup d'électeurs. C'est là où on gagne les élections au Grand Nord. C'est là où le RDP, c'est le parti de M. Biya au pouvoir depuis, je ne sais plus combien de temps, on dit 43 ans, j'en sais plus rien, qui brigue un huitième mandat, ça c'est des histoires, je ne sais pas comment dire, c'est Molière qui pourrait trouver un titre pour qualifier tout cela, c'est d'une tragicomédie, je ne sais pas comment, bon voilà. Et lorsqu'on est au-delà du ridicule, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas... Je vois pas. Le Grand Nord a présenté aussi, ça c'est toujours pareil, dès qu'il y a un qui est sorti du gouvernement, M. Tchiroma, qui s'est présenté en disant, bon, lui, il n'est plus dans le gouvernement, ça y est, c'est bon. Et tout de suite, comme dans le Manidem, M. Bello Bouba Maïgari, quelqu'un aussi du Nord, un ministre qui est ministre, depuis, moi je me souviens, mon oncle était préfet, ou enfin, il était à la province, là, il avait un titre là-bas, ou premier jour au préfet, je ne sais plus. Et moi, on habitait en face du côté du lac de Yaoundé, là, en face de Monsieur Bello Bouba, qui était ministre. J'avais 16 ans au lycée technique, j'étais en seconde. Vous vous rendez compte? Alors, ça fait, le gars, il est là depuis. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il ose même se présenter, lui, là? C'est les mêmes gens que le président Biya. Il a fait un idiot, il a fait tout, et puis c'est quelqu'un qui récemment a été, enfin, là, avant de partir du gouvernement, il était ministre du tourisme. Le Cameroun ne brille pas par son tourisme. Il ne peut pas briller par son tourisme parce que il n'y a pas d'infrastructure. Bon, du côté de Monsieur Camteau, vers l'ouest, le sud-ouest, il y a des infrastructures touristiques qui sont très intéressantes. Mais c'est aussi un côté qui est très en pointe sur la contestation du pouvoir. Et donc, quand vous y allez, c'est pas ça non plus. Donc, le tourisme ne peut pas se faire dans ces conditions comme ça d'instabilité ou de contestation politique. Et pourtant, il y a des sites. Mais c'est nouveau, hein, c'est nouveau dans l'Ouest et c'était plus ancien dans le Sud-Ouest, mais pas connu. Le reste du Cameroun, qui est très grand, ben, il n'y a rien parce que, après, il y a des choses, mais pour y accéder, bon, il y a Kribi, on parle de la côte, mais même Kribi, où il y a l'océan qui arrive, ne se développe pas bien parce que c'est pareil, il n'y a pas une politique touristique, il n'y a pas de dynamique. Voilà donc ce monsieur qui a fait beaucoup de postes, monsieur Bello Bouba Maïgari, depuis 50 ans, je ne sais plus qu'il est là, au moins 40 ans, et c'est quelqu'un qui est transparent. Vous voyez, des gens qui font pas de vagues, tiède comme tout, je dis mou comme tout, ça ne peut pas être un président du Cameroun en ce moment, surtout qu'on a quand même quelque chose qui s'est passé dans l'Afrique aujourd'hui, c'est les États du Sahel, Mali, Burkina, Niger, qui ont entrepris de faire une révolution. C'est pas forcément que les jeunes, hein, parce qu'on voit beaucoup Ibrahim Traoré, s'il est jeune, mais les autres ne sont pas si jeunes que ça, les autres militaires. Et de l'AES, bien sûr. Et on ne voit pas ici au Cameroun quelqu'un qui peut avoir cette stature, en fait. C'était un peu Monsieur Camteau. Et d'après la liste des candidats qu'on voit, moi, je préfère encore monsieur, comment j'ai dit son nom là au début, là, avec le premier qui a dit, Tchiroma. Et je préfère encore, il a été ministre de la Communication. Lui aussi, il est lisse, hein, il est lisse, mais il y a, je ne sais pas. Bon, après, on dit aussi que le CV n'est pas terrible. C'est compliqué. J'ai le mot compliqué, c'est flou. Voilà, tout ça est flou, ça manque de visibilité. Et le Cameroun est à ce niveau-là où, parce que le président n'a jamais pris la peine, Biya, bien sûr, ou le pouvoir en place, soit de laisser la porte au dauphin, à un dauphin, soit de le construire. C'est pas, on parle de son fils qui sera en embuscade. On est dans le flou absolu au Cameroun. Et qu'est-ce que le gouvernement trouve à faire? C'est de placer dans les grandes villes déjà la police partout pour le grand contrôle, comme je vous ai dit. C'est vrai que on peut poser la question, comment on en est arrivé là? Mais ça, c'est le problème mondial. C'est-à-dire qu'on coupe toutes les têtes qui peuvent le dépasser, les têtes pensantes, les gens compétents. On a tout coupé et comment ça s'est passé? C'est le système. Et ce même système qu'on retrouve partout dans le monde. Donc, ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas propre au Cameroun en fait. C'est la même chose en France, probablement aux États-Unis, un peu partout, où c'est le carriérisme politique et comment on va dire, les adhésions aux ordres opaques et ésotériques qui font les carrières. Alors, quelqu'un disait, mais pour changer le Cameroun, il fallait déjà commencer par changer les mentalités, un vaste programme, par mettre les gens compétents en place, vaste programme, et par réécrire tous les textes De la constitution institutionnelle qui font que ici, au Cameroun, ben, c'est le brigandage généralisé. Et dans les villages, c'est carrément, je ne sais pas comment dire, c'est la sauvagerie la plus extrême qui s'exprime. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, sauf en marche comme ça. Bon, c'est la corruption partout, l'éducation qui s'est écroulée, effondrée. Ça, c'est les deux terreaux. Hein. Vous foutez l'éducation en l'air, vous la dépréciez, la corruption s'installe globalement, ben, le pays devient un foutoir. C'est ça, le Cameroun, c'est un foutoir. Pour redresser tout cela, bon courage aux candidats. Je ne sais même pas ce qu'ils pourront dire, parce que. En même temps, les Camerounais aussi se plaignent, mais ils sont blasés. Hein. Chacun essaye de faire son business à son niveau. Et s'il peut voler, il vole, hein, sans se gêner. Hein. Mais le problème, c'est que ça finit par se voler entre eux, là, dans la base, dans la populace. Et puis ceux d'en haut, ils ramassent tout l'argent avec les multinationales et les gens du Mossad et tout ce que vous connaissez à l'international. Voilà le pays. Donc un pays, c'est même pas clivé, c'est même pas fracturé, c'est abîmé, complètement abîmé, fissuré de partout. On ne voit pas par où on peut commencer pour recoller. On a fait la décentralisation, c'est encore pire. On a créé une nouvelle classe d'aristocrates locaux, des petits. Des roitelets, parce que ça, l'Africain sait faire. Ah, on n'est pas dans la civilisation ici, parce qu'il n'y a pas le vrai, il n'y a pas le juste, il n'y a pas le beau, il n'y a pas le bon. La culture a foutu le camp. On célèbre l'alcool, voilà. C'est parce qu'il y a tout un vide culturel. Il y a un vide esthétique, il y a un vide de la pensée. De toute façon, si vous pensez ici, vous risquez de finir en tôle. Et j'avais pensé à deux choses, quand je voulais faire cette émission. Mais après, je me suis dit, il ne faut pas l'intellectualiser. J'ai d'abord pensé à décrire le système de l'ordre mondial, de commencer par dire c'était quoi la civilisation pour arriver à voir comment tout cela s'est dégradé, s'est effondré pour que nous retrouvions aujourd'hui avec des choses comme ce qu'on voit en France, comme ce qu'on voit Israël, Iran, comme dans tout ce mensonge. Hein, généralisé, qui rend les gens fous, sans compter ces impostures à la Macron avec, pas lui tout seul, cette histoire de genre, cette histoire de trafic d'enfants, cette histoire. Non, des horreurs qui ne peuvent être possibles que parce que ben, on est sorti du chemin de la civilisation pour entrer, je ne sais pas où, je sais pas où. Passant par là, sans aller dans le détail, parce qu'après, on rentre dans un autre univers, mais c'est la même chose que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis aujourd'hui. C'est le même process, c'est le même bazar, c'est le même chaos, c'est la même société totalement déchirée. C'est même plus des sociétés. C'est des jungles, hein. On a retrouvé la jungle en Afrique carrément, parce que. Moi, ici, dans ce village où je suis, il faut juste que j'écrive un livre parce que ce n'est pas possible. Ce que vous voyez, vous voyez quand on est au lycée, on a en tête comme ça le poème, les poèmes d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Ah, c'est joli. Parce que c'est vrai que là aussi, il fait un reporting. Césaire, qui est aussi terrible, des Antilles qu'il trouve, pétrifié par l'alcool, et la misère, et la boue noire. Ici, c'est pareil. Mais dans le retour au pays natal, il y avait toujours quelque chose qui faisait un peu rêver, hein. On rêvait qu'on retourne aux sources, hein, quelque chose de la pureté, quelque chose qui de renouvellement. Et nous, la diaspora, on pensait beaucoup qu'on pouvait apporter quelque chose à l'Afrique. Mais pensez-vous, quand vous arrivez ici, le système qui broie les énergies à l'étranger via le Mossad et tout leur équipement est le même qui broie toute possibilité de, on a dit, développement ici ou d'innovation, de création à la Chine comme ça, ou façon indienne, ou façon, même, bon, je ne vais pas parler des Russes, sinon ils ne sont pas trop sortis. Ça broie tout ça, toutes ces énergies, ces initiatives, et le schéma, c'est de dire non à la double nationalité. Donc, pas de diaspora ici au Cameroun. Et ce schéma de rejet de la diaspora rejaillit même sur l'Afrique elle-même, sur le Cameroun, parce qu'entre eux, ils se rejettent. Voilà, à force de croire qu'ils rejetaient la diaspora, ils ne se supportent pas entre eux. Clivage entre ceux qui volent en haut et puis ceux qui volent aussi tout aussi clairement en bas. Clivage ethnique, clivage, et puis au sein même de chaque ethnie, clivage entre les gens, beaucoup de haine, hein, beaucoup de haine, beaucoup de blocage. C'est ça qui se passe avec le Mani Idem, où quelqu'un va bloquer son frère. Non, faut pas passer chez les Bassa, c'est alors un cas exemplaire. Non, c'est très laid à voir. On vient, on se dit, oui, quelqu'un dit être né quelque part, c'est parti quand on veut, revenir quand on veut, quand on peut. Mais on revient pas comme ça. On revient pas, en fait, parce que moi, je vois mon expérience. Je suis parti d'ici. Évidemment, quand je viens, je crois que je reviens. Mais vous êtes parti, entre-temps, vous avez passé 30 ans en France et une éternité. En plus, le moment où on se construit. Un intellect et tout, une force autre que la force physique. Quand vous venez en Afrique après, vous rentrez pas parce que vous trouvez un monde totalement étranger, surtout quand il s'est effondré et abîmé comme celui du Cameroun. Vous reconnaissez rien, vous connaissez personne. Comment vous vivez? Vous vivez hors temps et hors sol. Voilà. Et vous les regardez en surplomb en disant, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Hein? Donc, le mythe de retour, c'est un mythe, hein, le retour aux sources. Et bon, c'est un rapport avec le divin. Oui, si on peut dire ici, quand on vit hors sol ou hors temps, il faut aller s'accrocher au temps de la chrétienté, la divinité, parce que ce temps-là, c'est le temps, comme Jésus a dit, j'y ai pensé quand j'aurais parlé de la civilisation, je voulais, qu'il est venu, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est plutôt venu les accomplir. Dans Matthieu 5, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, bien sûr, la civilisation, quand vous retracez depuis l'Égypte, vous continuez la Grèce, Rome, Jésus, vous arrivez à ce niveau de chrétienté qui fixe les choses une bonne fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que la loi et les prophètes ont dit avant? Aujourd'hui, il n'y a plus. Alors, on commence à terminer là. Vous avez vu ce qu'est devenu la loi au niveau international? Il n'y en a plus. Vous avez vu ce que les prophètes ont annoncé? Parce que quand on dit aussi prophète, c'est aussi des gens qui apportaient la bonne nouvelle. Hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme nouvelle? Où sont les bonnes nouvelles? C'est des poètes. Où sont nos poètes? On ne sait plus où sont. Oui, il faut d'abord rentrer à la franc-maçonnerie et puis faire tout ce que vous connaissez. Dossier Epstein, dossier Obama, la Russie, dossier PDD, dossier. Il y en a, il y en a, il y en a et il y en a. Finalement, le Cameroun est un cas exemplaire de ce que le monde occidental est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie décadence, un vrai dérèglement sociétal. Et j'avais une dernière chose à dire quand même. Quand on regarde, c'est une erreur, hein, le Cameroun aujourd'hui, vraiment une erreur. On ne va pas dire démocratique, on va peut-être dire républicaine si on veut, peut-être. C'est-à-dire dans la tentation de constituer une société, bon, ici, vivre ensemble, beaucoup de slogans, hein, beaucoup de slogans. Et en fait, on a, vous savez, dans les régimes politiques, on termine là-dessus, il y a la démocratie qui n'existe plus nulle part, on est d'accord. Il y a l'aristocratie, c'est ça qui existe aujourd'hui. Il y a l'oligarchie et puis il y a la monarchie. Bon, la monarchie, ça si je lis si, la monarchie à un côté, c'est soit la royauté qui respecte un certain ordre, soit la tyrannie qui est sans règle. Là, c'est on divise en deux comme ça. Bon, la monarchie, on va pas en parler, mais on a la tyrannie. Au Cameroun, c'est ça. La tyrannie, il n'y a pas de règles. On a une aristocratie qui, comme en France, hein, ça, on a créé les technocrates, parce que le général de Gaulle pensait qu'il fallait des hauts fonctionnaires bien qualifiés pour diriger l'État, mais tout ça a dérivé vers la technocratie. Et non seulement ça dérive vers la technocratie, c'est-à-dire des gens bien éduqués qui connaissent le process de l'administration. Ça finit par comment je vais dire, se transformer en un lieu d'acquis, hein, permanent, où l'argent, voyez, devient le but ultime parce que avec l'argent, vous garantissez non seulement votre position, mais aussi celle de vos de vos enfants, de votre descendance, parce que y a une dérive, et j'ai vu là chez Rousseau, le contrat social, on ne peut pas ne pas aller regarder le contrat social. Le contrat social qui fait vraiment une critique de cette aristocratie, laquelle aristocratie d'ailleurs, Bourdieu avait appelé la noblesse d'État. Souvenez, la noblesse d'État qui finit par créer des héritiers. Et comment elle finit par créer des héritiers? Alors, Rousseau l'explique vite fait. C'est ce qu'on a ici. Vous allez comprendre pourquoi le sénateur enfin, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, c'est toute une histoire ici. C'est que des vieux, des gérontes. Rien contre l'âge, hein, mais quand même. Et là, c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit, les premières sociétés se gouvernèrent aristocratiquement. Les chefs de famille délibéraient entre eux des affaires publiques. Les jeunes gens cédaient sans peine à l'autorité et l'expérience. Ça, c'est normal, bah, il n'y a pas de problème. Et de là, les noms de prêtres, d'anciens, de sénats, de gérontes. Donc, c'était à peu près comme ça partout, mais à mesure que l'inégalité d'institution l'emporta sur l'inégalité naturelle, la richesse ou la puissance fut préférée à l'âge et l'aristocratie devint élective. Bon, en fait, la puissance transmise des biens, hein, des parents par l'héritage aux enfants, rendant donc les familles fortes, créant des dynasties, en fait, faisait donc que finalement le gouvernement devenait héréditaire. On vit donc des sénateurs de 20 ans. C'est comme ça qu'on dure dans une classe par l'argent parce que c'est vos enfants vous remplacent. L'argent, et pas mal en fini, est au cœur de tous les systèmes du monde aujourd'hui parce que le but de la démocratie, c'est la liberté. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a le contrôle du Mossad. Le but de l'aristocratie, évidemment, c'était de permettre aux gens d'être bien éduqués, mais l'aristocratie a plongé aussi dans l'argent et est devenue une classe autre qu'on appelle l'oligarchie. Et le but de l'oligarchie, c'est le capital et la richesse. Toutes ces dérives, on va pas parler de l'autre régime, monarchie et tout. Bon, la monarchie, ça c'est... finalement, lorsqu'elle est tyrannique, c'est le but, c'est le pouvoir, garder le pouvoir. Et on a donc cette conjonction ici, richesse, chercher la richesse, conserver le pouvoir, et puis brader l'éducation pour pas que Les gens viennent beaucoup emmerder ceux qui sont en haut. Et finalement, le Cameroun, c'est le même bazar et le même foutoir que partout ailleurs. Il est ingouvernable. Donc les élections, ça va être aussi pas, mais on peut aussi savoir, puisque vous savez que c'est l'argent qui va déterminer les choses, et c'est aussi la force et du Mossad et de toutes les puissances de l'argent à l'international qui vont intervenir pour faire élire, comme on a fait pour la Macronie, pour faire élire probablement le parti au pouvoir. Alors, le Cameroun s'oriente, je ne sais pas vers quoi, parce que le coup d'État, ce n'est pas possible. Le président le RDPC, toutes ses forces ont racheté toutes les forces militaires. S'oriente ici, Dieu seul sait dans quoi. Bon. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le Monde par Elise Bock. Je vous dis à bientôt.